Bonjour à chacun. Je suis vraiment béni d'être là ce matin à Nouvelle Vie. Il faut que vous sachiez que cette église et votre pasteur en particulier, pasteur Claude, vous avez vraiment beaucoup compté tout au long de mon ministère. Ça fait 30 ans que j'exerce le ministère pastoral et aujourd'hui je suis quelqu'un qui est épanoui dans sa fonction, quelqu'un qui est passionné par ce qu'il fait, qui a beaucoup de plaisir à exercer le ministère. Mais j'aimerais vous dire que ça n'a pas toujours été le cas. Au début de mon ministère, je sentais l'appel de Dieu sur ma vie, mais c'était vraiment compliqué pour moi de pouvoir y répondre totalement. Et à plusieurs reprises, j'ai même été tenté d'arrêter parce que la façon dont on me présentait le ministère, la façon dont on me présentait ce qu'était l'Église ne résonnait pas convenablement dans ma vie et dans mon cœur. Et pourtant, j'étais convaincu de mon appel, mais j'ai douté profondément les premières années de mon ministère. Et puis, il y a plus de 20 ans, des pasteurs OVNI, venant du Québec, avec un drôle d'accent, desquels on disait que c'était nos cousins de l'autre côté de l'Atlantique, sont arrivés en France. Alors, je ne vous cache pas qu'ils ont fait peur à certaines personnes, mais pour moi, quelle bouffée d'oxygène. Quel enthousiasme, quelle ouverture d'esprit. Et je peux dire ce matin, je peux témoigner, et je suis béni de t'avoir en face de moi, Claude, que tu m'as réconcilié, vous m'avez réconcilié avec l'appel que Dieu avait sur ma vie, parce que j'ai réalisé à ce moment-là qu'il y avait une autre façon de faire le ministère, une autre façon de conduire l'Église et d'organiser l'Église. Et depuis plus de 20 ans, je suis animé de cette passion-là, telle que vous me l'avez communiquée, et je pense qu'il faut que vous soyez conscient de l'impact que vous avez, vous, Nouvelle Vie, dans le monde francophone et au-delà de cela. Et rien que pour cela, merci pour qui vous êtes, pasteur Claude, merci pour qui tu es, soyez bénis. Et que vous puissiez être encore une source de bénédiction pour plusieurs. Comme cela a été dit, le titre du message de ce matin est le suivant. Quels sont tes combats? Les combats font partie de la vie en général. C'est Roger Martin Dugard, qui était un Français du 19e siècle, qui a écrit ceci. L'existence tout entière est un combat. La vie, c'est de la victoire qui dure. En d'autres termes, pour continuer à vivre, il faut continuer à se battre. Et si aujourd'hui j'arrête de lutter, si j'arrête de combattre, je peux peut-être vivre physiquement, mais moralement, spirituellement, intérieurement, je risque de mourir. Il faut lutter pour tout. Il faut lutter pour son couple. Il faut lutter pour sa famille, il faut lutter pour rester en bonne santé, il faut lutter pour faire avancer ses idées, il faut même lutter et combattre pour rester mince. C'est vous dire que les combats sont partout. Et c'est vrai également dans le domaine spirituel. Dieu ne nous a jamais caché cette réalité que même dans la vie chrétienne, dans la vie spirituelle, nous aurions aussi à combattre. C'est sans doute pour cette raison qu'il y a dans l'Ancien Testament de nombreux récits de guerre. Parfois, ces récits viennent nous déstabiliser. On se dit, mais comment c'est possible cette violence et pourquoi Dieu permet que de telles histoires, de tels récits se retrouvent dans la parole de Dieu? C'est vrai qu'aujourd'hui, nous n'avons plus à lutter contre des hommes et des femmes, contre la chair et le sang, dit l'Écriture. Mais néanmoins, je sais que ces textes sont là pour être transposés dans le domaine spirituel, pour nous apporter des applications spirituelles afin de nous aider et de nous animer dans les combats qui sont les nôtres. L'Éternel lui-même se fait appeler l'Éternel des armées. Et tout cela pour dire que Dieu, la parole de Dieu, ne nous a jamais caché la réalité du fait que nous aurions à combattre dans tous les domaines, y compris dans le domaine spirituel. Et je souhaite ce matin que nous puissions interroger nos propres combats. Avec cette idée que nos combats, nos luttes, ont quelque chose à nous apprendre de nous-mêmes. Il y a un enseignement à retirer de chacun de nos combats, chacune de nos luttes, un enseignement pour nous-mêmes. Et à la question « qu'est-ce que mes combats disent de moi ?», j'ai trois réponses. Ça veut dire que quand je serai à la troisième, vous allez pouvoir commencer à dire « Amen », c'est-à-dire « il a bientôt terminé ». On y va ? On y va. Qu'est-ce que mes combats disent de moi ? La première réponse est la suivante. Certains de mes combats me disent quelque chose sur mes faiblesses intérieures. C'est Jacques qui le dit dans son épître au chapitre 1er, verset 14. En réalité, tout être humain est tenté quand il se laisse entraîner et prendre au piège par quoi ? Par ses propres désirs. Et ça vient me donner une indication importante. Nous ne sommes pas tentés par les mêmes choses. Chacun a ses propres désirs. Nous n'avons pas tous le même type de combat. Nous ne sommes pas tous attirés par les mêmes choses. Quand dans ma cuisine, sur le plan de travail, on laisse traîner un plat de carottes râpées, je peux vous dire que le soir, les carottes seront toujours à la même place. Je ne comprends même pas le concept de devoir manger des carottes, vous comprenez ? Par contre, vous laissez sur ce même plan de travail un plat avec des fraises à l'intérieur, je ne réponds plus de rien. Chacun a ses propres désirs, chacun a ses propres luttes, ses propres combats. Nous ne sommes pas attirés par les mêmes choses. Nous n'avons pas les mêmes points d'accroche. Alors la question qu'il faut se poser, quel est le péché qui m'attire le plus ? Quel est le genre de tentation auquel je ne peux pas résister ? À quel comportement je me laisse facilement aller ? Quel est le trait de caractère qui me dessert et dans lequel je tombe trop souvent ? Et cette étape est extrêmement importante pour deux raisons. La première, elle est toute simple. Je pars du principe qu'un problème bien identifié est un problème à moitié résolu. Un problème bien identifié est un problème à moitié résolu. Et surtout, ça va apparaître devant vous, deuxièmement, connaître nos faiblesses, c'est identifier les portes par lesquelles Satan peut avoir accès à ma vie. Je vais peut-être vous apprendre quelque chose ce matin, mais l'adversaire de nos âmes ne passe pas par-dessus les murs. Il n'escalade pas les murailles, mais il emprunte les portes. Et c'est la raison pour laquelle il est extrêmement important de bien les identifier. C'est Déborah, dans son cantique, dans le livre des Juges, qui va dire ceci, « La guerre était aux portes ». Et j'aimerais vous le dire, la guerre se trouve toujours derrière nos portes, derrière nos fragilités, derrière nos faiblesses, derrière ces désirs qui sont à l'intérieur de nous, et qui sont des portes pour l'adversaire de nos âmes. C'est pour cela qu'elle va dire également, dans toujours le même chapitre, je parle de Déborah, « Alors le peuple de l'Éternel descendit aux portes. » À partir du moment où je suis capable d'identifier mes portes, je suis capable de descendre et de veiller sur ces portes. Il est vraiment important d'analyser les portes qu'il y a dans ma vie, avec cette idée qu'il faut amener mes faiblesses à Dieu avant que Satan me les amène sous forme de tentation. Retenez bien ce principe, il est extrêmement important. Je dois amener à Dieu mes faiblesses avant que l'adversaire de mon âme les amène sous forme de tentation. Et l'histoire de la tentation de Jésus nous apprend beaucoup de choses sur ce domaine. La Bible dit que Jésus, avant d'exercer son ministère, a été poussé par le Saint-Esprit dans le désert et a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. Et la Bible dit qu'au bout de ce temps-là, il eut faim. Ça étonne qui, ça ? Et quand l'adversaire de son âme, de notre âme, s'est adressé à lui, vous savez vers quoi il s'est tourné ? Il s'est tourné vers son ventre. Son ventre était vide. Sa carence était une carence alimentaire. Et il va lui dire, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. L'adversaire de son âme, de notre âme, est venu tenter notre Seigneur, notre Sauveur, avec les carences qu'il y avait dans sa vie. Si tu es Fils de Dieu, ben moi j'ai un moyen pour assouvir cette carence. Transforme ces pierres en pain. Et la question pour nous ce matin est importante. Où sont mes vides ? Où sont mes carences ? Ai-je des carences affectives ? Des carences de reconnaissance, des carences d'assurance. Et je le répète encore une fois, il est extrêmement important d'être conscient de nos faiblesses afin de pouvoir les amener à Dieu avant que Satan s'en serve pour venir me déstabiliser et me tenter. Ça m'oblige à avoir avec Dieu des temps de transparence, des temps d'authenticité. J'aime ces temps personnellement où je peux venir devant Dieu et j'aime que Dieu vienne me chercher au fond de moi-même, vienne me titiller au fond de moi-même, venir dans mes retranchements et voir avec moi ce qui a besoin d'être changé et transformé. Vivons ces temps authentiques, ces temps de sincérité avec Dieu pour qu'il vienne travailler en nous et opérer en nous les guérisons et les délivrances nécessaires. Non seulement, il est important d'identifier nos portes, mais il est aussi important d'identifier quand surviennent nos tentations, nos combats. Et si on reste sur le récit de la tentation de Jésus, il est dit dans Luc 14, verset 13, « Après avoir achevé de tenter Jésus de toutes les manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à une autre occasion. » Littéralement, il a attendu le moment opportun. Il a attendu le bon moment. Non seulement il y a des portes pour lesquelles je suis vulnérable, mais il y a des moments dans lesquels je suis aussi vulnérable et qu'il faut que je puisse identifier. Ça peut être des moments de fatigue. Ça peut être des moments de déception, de frustration. Ça peut être des moments où je suis insécure. Ça peut être des moments où je suis seul. Ça peut être le moment où mon conjoint, ma conjointe est couché, je suis seul face à mon écran, à mon ordinateur. Il y a des moments propices. Et j'ai besoin d'identifier cela. C'est pour cela que je le remets dans le contexte de ce message. Il est important pour moi d'interroger mes combats. Là où je suis le plus vulnérable et le moment où je suis le plus vulnérable, parce que mes combats en disent long sur mes propres faiblesses. Identifier le moment est crucial. Luc 12, verset 39. Vous le savez bien, si le maître de maison savait à quel moment Le voleur va venir, il ne le laisserait pas pénétrer dans sa maison. Sous-entendu, en d'autres termes, si tu sais quand le voleur intervient, ta vigilance l'empêchera de pénétrer dans ta maison, de la voler, de la dépouiller. Alors, à la question « qu'est-ce que mes combats ont à dire sur moi ?» La première réponse, certains de mes combats me disent quelque chose sur mes faiblesses intérieures. Deuxièmement, mes combats me disent quelque chose sur ma mission, sur l'importance de mon appel, sur l'importance de ma destinée. Et je voudrais avec vous voir le temps où Jésus a connu avec les disciples une tempête. Il enseigne pendant un temps, avant de prendre ou de monter dans la barque, il enseigne la foule sous forme de paraboles. Il utilise beaucoup de paraboles pour enseigner la foule. Et à un moment donné, il dit aux disciples, il faut passer de l'autre côté, il faut passer de l'autre bord. Parce que de l'autre bord, Jésus et les disciples devaient exercer leur ministère. Et entre autres, il y avait un homme qui les attendait, qu'on appelle le possédé de Gadara. Jésus monte dans la barque, les disciples avec. Et voilà comment Marc va décrire la scène du passage vers l'autre bord. Et voilà qu'un vent violent se mit à souffler. Les vagues se jeter, retenez bien cette expression, se jeter dans la barque, à tel point que déjà elle se remplissait d'eau. On a l'impression qu'il y a une force extérieure, on a l'impression qu'il y a une force surnaturelle. L'eau non seulement tombe dans l'eau, mais se jette dans l'eau avec peut-être l'idée d'envoyer la barque vers le fond. Les disciples effrayés vont réveiller Jésus. Et voyez-vous ce qu'il est dit au verset 39 ? Jésus réveillé menaça le vent et dit à l'eau du lac, « Silence, calme-toi !» Alors le vent tomba et il y eut un grand calme. Je vais oser une question. À votre avis, la tempête était-elle due à un événement météorologique, climatique ou spirituel? Je réponds sans aucun doute que cette tempête était d'ordre spirituel. Et peut-être que vous allez me dire, mais qu'est-ce qui vous pousse à affirmer de tels faits? Quelque chose de très simple. Il est dit que Jésus a menacé la tempête. Dieu ne menace jamais les éléments naturels. Il les utilise. Ça s'appelle d'ailleurs un miracle. Dieu a séparé la mer Rouge en deux. Dieu a utilisé le vent pour rabattre la viande, les cailles vers le peuple hébreu pour que celui-ci puisse se nourrir. La Bible dit même qu'il fait des vents ses messagers. Il ne menace jamais les éléments naturels. Il ne menace que ce qui est d'ordre spirituel. C'est pour cela qu'on le voit à plusieurs reprises dans les évangiles menaçaient des esprits méchants. Et là, ils menacent cette tempête parce qu'elle est d'ordre spirituel. Je ne dis pas que toutes les tempêtes de nos vies sont d'ordre spirituel. Il y a des tempêtes qui sont dues aux aléas de la vie. Tant que nous serons sur terre, nous aurons à subir ce type de tempête. Nous sommes solidaires de ce monde. Nous respirons la même air, nous mangeons les mêmes aliments, on vit dans les mêmes contextes, et naturellement, même si nous sommes enfants de Dieu, nous devons parfois subir les mêmes aléas. Parfois même, certaines de nos tempêtes, il faut le dire avec honnêteté, sont dues également à nos mauvais choix. Mais j'aimerais dire également que certaines de nos tempêtes sont purement spirituelles. Ça en dit long sur ce que Dieu prévoit sans doute de faire avec toi. Ça en dit long sur le type de ta mission, le type de ton appel. Ça en dit long sur la destinée qu'il y a devant toi. L'adversaire de nos âmes ne menace pas ce qui ne le menace pas. Il ne menace qu'à partir du moment où il sent que son royaume est en danger. Il est capable de déceler, il est capable de pressentir la destinée qu'il y a sur certaines vies. Il n'est pas omniscient. Il n'est pas omnipotent, il n'est pas omniprésent parce qu'il n'est pas Dieu. Mais néanmoins, il est capable de pressentir les choses. Et quand il pressent les choses comme il les a pressenties avec Job, il est capable de venir essayer de nous stopper par une tempête. Et peut-être que là, ça vous enseigne sur la tempête que vous êtes en train de vivre ce matin. Peut-être que vous ne comprenez pas pourquoi vous vous retrouvez dans cette galère. Peut-être que vous ne comprenez pas pourquoi les vents sont contraires alors que vous sentez le feu vert de Dieu sur vos vies. Peut-être que vous sentez toutes sortes de choses et là, ça résiste. Et si cette tempête était d'ordre spirituel ? Voilà une question qu'il faut entendre. Quand le nouveau pharaon a regardé le peuple hébreu, il a perçu la menace tout de suite. Et vous savez, il a surtout perçu la menace des bébés mâles. Pourtant, il n'était même pas né. Et il a donné cet ordre aux sages-femmes que tout nouveau-né mâle devait mourir, devait être détruit. Et peut-être que quelqu'un se dit aujourd'hui, moi j'ai encore rien fait. Moi je suis un jeune bébé spirituel. Je viens de prendre mon baptême ou je vais le prendre dans les jours à venir. Je n'ai rien encore fait, mais tu es menaçant pour le royaume des ténèbres. Tes combats doivent t'enseigner sur ta mission, sur ton appel et sur ta destinée ce matin. Enfin, qu'est-ce que mes combats ont à dire sur moi-même ? Troisième réponse, mes combats viennent me dire quelque chose sur ma propre valeur. L'ennemi n'attaque que ce qui a de la valeur. Et si je suis attaqué, c'est donc un signe que j'ai de la valeur, que je suis précieux. C'est vraiment important que mes combats ne viennent pas abîmer l'image que je peux avoir de moi ou abîmer l'image que Dieu a de moi. J'ai souvent rencontré des personnes qui avaient honte des combats qu'elles menaient, surtout sur le plan moral, avec cette idée, avec ce questionnement, comment je peux être tenté par ce type de choses, moi, enfant de Dieu ? Comment je peux avoir ce type de combat ? Et rien que le fait d'être confronté à certains combats, à certaines tentations, il y a une espèce de honte qui envahit le cœur de plusieurs. Je vous demande de réfléchir à ce texte. Moi, il me dépasse, je n'arrive pas à le comprendre. Où il est dit que Jésus a été tenté en toutes choses. Je n'arrive pas à concevoir ce verset. Mon esprit est trop étriqué, trop fermé, mon intelligence est trop basse pour comprendre la réalité de cela. Jésus tenté en toutes choses, avec cette précision bien entendu énorme, sans jamais avoir commis le péché. Alors contrairement à Jésus, non seulement nous sommes tentés, Mais on va être vrai, il nous arrive parfois de perdre des combats. On ne veut pas jouer à l'Église, on ne veut pas jouer aux chrétiens. On veut être vrai, on veut un instant vrai ce matin. Oui, j'ai des luttes. Oui, j'ai des combats. Oui, j'ai des tentations. Oui, je remporte des victoires et je suis victorieux dans des tas de domaines. Mais il m'arrive aussi de perdre certains combats. Et je vous demande de réfléchir à cette autre affirmation. Même mes défaites ne remettent pas en question ma valeur devant Dieu. Pasteur, vous osez dire ça? Allez, rien que pour vous embêter, je vais le répéter. Même mes défaites ne remettent pas en question ma valeur devant Dieu. Pourtant, la Bible semble affirmer le contraire. Puisqu'il est dit dans 1 Jean 3, verset 9, « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. » Donc, sous-entendu, si je pèche, je ne suis plus enfant de Dieu, et donc, si je ne suis plus enfant de Dieu, je n'ai plus la même valeur devant Dieu. Expliquez-nous très vite de quoi il est question. Peut-être qu'il est important de définir ce qu'est le verbe pratiquer. Nous pratiquons les choses que nous voulons améliorer. Je pratique le sport parce que je veux m'améliorer dans le sport. Je pratique la musique parce que je veux m'améliorer et devenir performant dans la musique. Écoutez bien ceci. Aucun chrétien ne pratique le péché pour s'améliorer dans celui-ci. Je n'ai jamais vu, en 30 ans de ministère, je n'ai jamais vu quelqu'un venir dans mon bureau avec cette idée, « Pasteur, je veux pratiquer le péché parce que je veux être performant là. » Jamais. Par contre, à l'inverse, j'ai rencontré des personnes en grande souffrance, avec une grande honte, sous une énorme culpabilité. Et là, je parle bien entendu de croyants qui comprennent parfaitement que la grâce n'est pas donnée comme prétexte pour pécher, mais comme une puissance pour vaincre le péché. Pourquoi est-il important de comprendre cela? Tant que je vais comprendre que le regard de Dieu ne change pas sur ma vie, même quand il m'arrive de perdre certains combats, quand je comprends que malgré cela, la faveur de Dieu est toujours sur moi, ça restera une force de transformation extraordinaire. Et je veux appuyer sur la parole de Dieu pour affirmer cela. Romains 2, verset 4 dit ceci. « Ne sais-tu pas que la bonté de Dieu, c'est la faveur de Dieu, c'est la bonté de Dieu qui doit m'amener à une transformation. C'est de comprendre cette réalité-là qui m'amène à changer et être victorieux de jour en jour, de gloire en gloire. » C'est ce qui a fait que le fils prodigue est rentré à la maison, hein. S'il n'avait pas foi en la faveur et en la bonté de son père, jamais il n'aurait vécu ce retour, jamais il n'aurait vécu sa transformation. Il a commencé par une étape importante, il est descendu au fond de lui-même, il a été honnête avec lui-même, il a même assumé ses bêtises, il a même assumé ses choix avec ce terme extrêmement biblique et fort, « j'ai péché ». Et assumer déjà ses erreurs, assumer déjà ses échecs, assumer ses choix, déjà, c'est une grande victoire. J'ai péché. Mais il n'est pas resté dans la désolation, à se plaindre, dans la victimisation, pauvre de moi. La bonté de Dieu l'a poussé. La bonté de son Père, la foi dans la bonté de son Père, dans l'amour de son Père, l'a poussé à revenir à la maison. Et là, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Le papa, il est fabuleux. Il voit au loin son fils arriver. Et il y a un passage dans la Bible, peut-être on le passe assez rapidement, où il est dit que le Père se mit à courir vers le Fils. Et on passe parfois rapidement sur ce type de texte en disant, voilà, c'est une information, il y est allé en courant. Mais comprenez bien que dans le contexte de l'Orient de l'époque, les personnes âgées ne couraient pas. C'était indécent. Ce n'était pas digne de leur âge. Ce n'était pas digne de leur rang. C'était des gens qui se déplaçaient, ils étaient respectés. Et ça paraissait un peu farfelu de voir une personne âgée courir. Et lui, le papa, il court. Vous allez me dire, oui, c'est normal qu'il court, même si effectivement ça ne pouvait pas se passer comme cela par rapport à la culture de l'époque, parce qu'il est pressé de voir son fils, certes. Mais il y a une autre dimension à comprendre. S'il court vers son fils, c'est parce qu'il veut annuler le décret de mort qu'il y a sur son fils. Le fils, par son comportement, avait mis sur la maison de son père, sur la maison de ses parents, une opprobre, une honte. En plus, en allant voir des prostituées, dit l'Écriture. Et selon la loi, selon le Deutéronome, un tel fils devait être lapidé. Et le père connaît cette loi. Il sait que son fils tombe directement sous le coup de cette loi. Alors même si ça ne se fait pas, il sort de la maison, il va au devant et il y va en courant. Parce qu'il se dit que si j'arrive avant les gens du village, si j'arrive avant la foule, je vais pouvoir l'entourer de mes bras et ils n'oseront pas lui jeter des pierres. Parce que s'ils jettent des pierres, ils vont me toucher. Vous voyez ce père qui court au-devant de nous ce matin. Ça doit me pousser ce matin à courir vers lui. Je ne connais pas tes combats, je ne connais pas tes luttes, je ne sais pas ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, je ne sais pas ce que tu es en train de vivre maintenant, mais j'aimerais te dire que ce n'est pas un père qui t'attend les bras croisés en disant « Tu vas voir ce que tu vas voir !» Mais c'est un père qui court. Parce qu'il veut annuler l'acte qu'il y a sur ta vie. Il veut te rendre victorieux et victorieuse. Il veut que tu triomphes de tes luttes. Il veut que tu te relèves des coups que tu as pu recevoir. Et je vais conclure avec cette pensée. J'aime l'idée qu'au moment où Jésus a été élevé sur la croix et cloué sur la croix, j'aime l'idée que le diable a commencé à faire la fête. J'aime l'idée qu'il a convoqué le monde spirituel, le monde des ténèbres, en disant « c'est fini, on fait la fête, venez, venez, on va faire la fête ensemble ». J'aime cette idée-là. Et j'aime surtout l'idée qu'au bout du troisième jour, quelqu'un s'est présenté à la fête en disant « surprise, c'est moi ». J'ai vaincu la mort, j'ai vaincu le péché, j'ai vaincu l'adversaire de mon âme. Et j'aime l'idée également que peut-être des personnes vous ont mis dans un tombeau en disant « c'en est fini de lui ». Peut-être même que c'est quelque chose qui t'habite dans ta pensée ce matin, « c'en est fini de moi ». Je me heurte toujours aux mêmes choses, je mords la même poussière. Et peut-être que des gens autour de vous sont là en vous disant « Mais jamais tu ne changeras, jamais tu vas t'orienter vers autre chose. » J'aime l'idée que Jésus puisse créer ce matin des surprises dans votre vie. J'aime l'idée qu'il vous sorte de la mort spirituelle. J'aime l'idée qu'il vous rende plus que vainqueur. Alors on va prier ensemble. On va demander à Dieu sa grâce et sa bénédiction sur nos vies et sur vos vies. Parce que quel que soit mon combat, Jésus est victorieux et il me conduit dans sa victoire. Seigneur Jésus, je te bénis et je te rends grâce pour le merveilleux évangile que nous avons à proclamer. Je te bénis et je te rends grâce parce qu'il est toujours actuel. Je te bénis, je te rends grâce parce que ce que tu as accompli sur la croix est toujours aussi efficace aujourd'hui, Seigneur. Et je te prie pour que plusieurs ce matin entrent dans leur victoire. Merci pour la grâce et la bénédiction que tu leur accordes dans le nom de Jésus. Amen.